porter collectivement une autre vision de l'économie plus humaine, plus solidaire, plus démocratique. C'est le credo des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, dont le mois, en ce début novembre, comme traditionnellement, vient de s'ouvrir, et ce, pour la 10e année consécutive. Sur le papier, le mois de l'ESS se veut un catalyseur d'identité et un propulseur de notoriété, en clair. Une manifestation vitrine qui vise à mobiliser et à renforcer ce tiers secteur, représentant nationalement 10% des emplois. Tiers secteur, entre le secteur privé lucratif et le public ou le parapublic, que nous présente plus avant et pour les 10 ans, Julien Cordier, chargé de communication à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Julien Cordier.
L'économie sociale et solidaire, il y a ce que dit la loi et il y a ce que vivent les acteurs sur le terrain. Ce que dit la loi, c'est que c'est un mode d'entreprendre spécifique, relative à l'ensemble des activités humaines et qui permet de concilier activité économique, solidarité et de mettre l'humain au centre de l'activité économique. Ça, c'est ce que dit la loi. Et après, il y a ce que vivent les acteurs de terrain. L'ESS, c'est un ensemble de citoyens, d'entrepreneurs, de salariés, de dirigeants qui souhaitent changer le monde économique et donner plus de place à l'humain, à la solidarité, au développement durable pour transformer le monde économique et mettre l'homme au centre de cette activité économique.
Alors la loi dont vous venez de parler, Julien Cordier, c'est la loi dite Hamon du 31 juillet 2014 qui a eu pour fonction, disons, d'essayer de clarifier quelque peu précisément le paysage de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Alors certes, c'est une autre vision de l'économie, on l'a dit, mais c'est des statuts également d'entreprendre, des statuts juridiques, des statuts divers. Il y a un premier périmètre historique, tout ce qui est association, mutuelle et autres, et un deuxième périmètre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sociétés commerciales qui peuvent également être reconnues de l'économie sociale et solidaire. Comment c'est possible ?
L'objectif de la loi, c'était de définir un périmètre précis pour qu'on puisse avoir une vision à peu près claire de ce qu'est l'ESS et que l'ensemble des acteurs qui souhaitent travailler avec nous puisse le faire en sachant exactement ce qu'est l'ESS. Et donc, elle a défini un premier périmètre qui correspond au statut historique de l'ESS, les grandes familles traditionnelles de l'ESS, associations, coopératives, mutuelles, fondations. Et dans une logique inclusive, elle a ouvert à d'autres types de statuts. Ça peut être des sociétés anonymes, des SARL, des sociétés anonymes simplifiées, mais en fixant des garde-fous, notamment en termes d'utilité sociale et de démocratie, et en les obligeant à respecter ces principes et en les obligeant à intégrer ces principes dans des règles collectives contraignantes et dans leurs statuts, dans les statuts qui régissent cette entreprise. Vous voyez qu'il y a une logique inclusive, mais en même temps, une volonté de fixer des règles claires pour qu'on ne tombe pas un petit peu dans le social washing comme on est tombé un peu dans le greenwashing parfois sur le développement durable.
Mais ça veut dire que je peux être une société anonyme et être une société anonyme de l'économie sociale et solidaire, vouloir faire du profit, mais pour autant être quand même une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Oui, c'est possible aujourd'hui. Après, il faut remplir un certain nombre de conditions et puis ensuite répondre à un certain nombre de procédures. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas de cloisonner l'ESS à un statut juridique, mais plutôt de dire que c'est une démarche, une volonté de transformer l'économie. Et ça, un dirigeant de SARL, de société anonyme, peut très bien avoir une vision progressiste de la société et à vouloir que son entreprise réponde à des besoins sociaux, soit plus démocratique dans son mode de fonctionnement. Il y a même, grâce à la loi, un guide des bonnes pratiques de l'ESS qui a été mis en place et qui permet de s'améliorer petit à petit. Alors, dans tous les types d'entreprises, on peut tous s'améliorer dans son entreprise de l'ESS et de s'améliorer sur la question de la gouvernance, s'améliorer sur la question du rapport au territoire, s'améliorer sur la question de l'égalité homme-femme. Par exemple, dans l'ESS, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. S'améliorer sur la question de la diversité. Voilà, il y a plein de champs où les entreprises de l'ESS peuvent être dans des logiques d'amélioration continue et de bonnes pratiques. Et c'est intéressant de rentrer dans ces logiques-là.
Gouvernance démocratique, gestion responsable, c'est quelques-uns des principes finalement que vous venez d'évoquer. Il y en a un dans l'économie sociale et solidaire qui est un pilier massif, si je puis dire, c'est de poursuivre autre chose que le simple partage du bénéfice.
Tout à fait, hein, si on revient un petit peu en arrière et qu'on on réfléchit un peu aux premières entreprises de l'ESS, elles sont souvent apparues suite à la révolution industrielle, et au départ, c'était des citoyens, des hommes, des femmes qui avaient besoin de répondre à leurs propres besoins, d'avoir accès à la santé, à la terre, à la culture, à l'éducation, et qui se sont organisés de manière autonome pour créer leurs propres entreprises et à répondre aux besoins de leurs adhérents. Après, on appelait ça les sociétaires pour les mutuelles, les coopérateurs pour les entreprises coopératives. Mais au départ, il y avait des situations d'injustice, de rupture, qui nécessitait que les gens se prennent en main. Voilà. Donc c'était ça les entreprises de l'ESS. L'objectif, c'est pas de gagner de l'argent. L'objectif, c'est d'abord de pouvoir survivre et de vivre dans des conditions acceptables.
L'ESS, l'économie sociale et solidaire, Julien Cordier, qui représente 10% des salariés au niveau national, 11% au niveau régional, pas de quoi vraiment créer un cocorico. Pour autant, il y a un réel dynamisme de l'ESS en région.
Alors, en termes de poids économique, c'est vrai que c'est à peu près les mêmes tendances qu'entre le national et le régional. On est à peu près 11% de l'emploi, plus de 200 000 emplois en région Hauts-de-France. Donc, on est dans les grandes tendances. C'est quand même un emploi sur 10 dans notre région. Donc, ça compte. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte. Et après, on a des belles réussites, des pépites en région. On a des sortes de clusters de l'ESS qui se développent et qui permettent, par exemple, grâce à Initiative et Cité, de créer un collectif pour accompagner et financer des projets ESS en région. On a un cluster de l'ESS qu'on appelle des PTCE, plutôt sur la région d'Audruicq, qui a développé toute une filière autour de l'alimentation. On a des entreprises très dynamiques comme le groupe Vitamine T ou la Sauvegarde du Nord, qui sont des entreprises emblématiques. Et après, des entreprises un peu moins visibles, mais qui sont très diverses, très dynamiques, très innovantes sur l'ensemble du territoire.
PTCE.
Pôle territorial de coopération économique, hein, ça c'est un peu notre jargon, mais globalement ce sont des clusters de l'ESS qui réunissent des entreprises classiques, des entreprises de l'ESS, des laboratoires, des universités, des collectivités pour développer de l'emploi et des activités à l'échelle territoriale.
Autre acteur de l'économie sociale et solidaire, Julien Cordier, en région, eh ben, c'est vous, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors, vu qu'on a commencé à parler en acronyme, on va continuer. Vous êtes un peu la CCI de l'ESS?
Alors, on est la CCI par les missions qu'on exerce. On a une mission de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire. On a un fonctionnement associatif. On est une association loi 1901. Et on est, pour faire très rapide, le réseau de l'ESS en région Hauts-de-France. Notre objectif, c'est de réunir, de rassembler, d'animer l'économie sociale et solidaire en région et de réunir tous les entrepreneurs, dirigeants, salariés de l'ESS pour pouvoir échanger sur notre vision de l'économie sociale et solidaire et échanger sur nos enjeux en termes de développement, en termes de financement, en termes de bonnes pratiques, comme je le disais tout à l'heure. On est l'espace d'échange de l'ESS en région. Donc on réunit, nous, ce qu'on appelle des communautés. On a commencé à travailler sur ces enjeux-là. Et on réfléchit sur la question des tiers-lieux, sur la question des financements, sur la question de l'égalité homme-femme, sur la question de la place de l'économie dans la société. Voilà. Donc on est un espace d'échange sur l'économie sociale et solidaire.
Joyeux anniversaire, hein, Julien Cordier. Le mois de l'économie sociale et solidaire, il fête ses 10 ans. Outre un sérieux focus, un sérieux coup de projecteur sur le secteur et sa philosophie, disons pour le dire vite, qu'est-ce qu'ils ont apporté année après année, ces mois de l'ESS?
Bah, disons que ça a permis de mettre en avant l'économie sociale et solidaire lors d'un temps fort qui était national, régional et local. Il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives qui existaient sur les territoires, mais il y avait peu de visibilité. Donc le mois de l'ESS, il est venu de PACA, puis maintenant, depuis maintenant 9 ans, depuis 10 ans, il est national. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un focus sur l'ESS et qu'on puisse parler d'économie sociale et solidaire durant un temps donné. Alors on arrive à la 10e année, aujourd'hui c'est un temps fort qui est installé, mais l'objectif, c'est de parler de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup d'initiatives autour de la thématique de la jeunesse. Il y aura, durant le mois de l'ESS, des événements qui sont portés dans les universités. Il y aura, par exemple, une clôture du mois de l'ESS qui aura lieu à Lille 3, qui sera l'inauguration d'une campuserie. Voilà. On s'adresse de plus en plus aux nouvelles générations, et le mois de l'ESS, c'est l'occasion de parler à ces nouvelles générations.
Une campuserie?
C'est une épicerie solidaire dans un campus universitaire. Voilà, donc un exemple de projet porté par des étudiants, par des enseignants sur l'économie sociale et solidaire, mais je pourrais vous en citer plein d'autres. Le mois de l'ESS, c'est l'occasion de découvrir l'économie sociale et solidaire. Je peux vous donner un autre exemple sur la Sambre-Avesnois. Il y aura un ESS Tour, donc un visite organisée des entreprises de l'ESS de la Sambre-Avesnois. Ça sera le 17 novembre. Et donc le mois de l'ESS, c'est vraiment l'occasion de découvrir l'ESS sous diverses formes. Visite d'entreprise, atelier, ciné-débat, atelier théâtre, enfin c'est très très divers.
Alors 10 ans des mois de l'économie sociale et solidaire, mais on l'a laissé entendre, l'anniversaire de l'ESS, il pourrait être bien plus vieux, elle a plusieurs siècles, l'ESS.
Tout à fait, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ESS a plusieurs siècles. Le début, la mise en place, ou en tout cas l'éclosion de l'ESS, provient d'abord des conséquences de la révolution industrielle. Il y a eu aussi la création d'organisations suite au choc pétrolier et à l'arrivée du chômage de masse. Donc vous voyez, au fur et à mesure des ruptures, des situations d'injustice, les difficultés économiques et sociales, il y a des organisations, des citoyens qui décident de se réunir pour répondre à leurs propres besoins. Ça a créé les premières mutuelles de santé, ça a créé les premières coopératives de production, ça a créé les premières structures d'insertion par l'activité économique dans les années 70 pour faire face au chômage de masse. Aujourd'hui, ça crée des start-up sociales sur la thématique du développement durable, de la transition énergétique. On va créer aussi des plateformes numériques pour mettre en lien les personnes âgées et les services sociaux. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Et à chaque fois, on est toujours dans cette même logique de dire une situation de rupture, une solution, un collectif qui se crée pour répondre à un besoin.
Alors, elle naît, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, Julien Cordier, vous l'avez dit, de la révolution industrielle. Est-ce qu'elle finira par être réellement révolutionnaire et est-ce qu'elle finira par réellement révolutionner l'économie?
Elle le fait au quotidien par des activités concrètes et des projets portés par les habitants et par les citoyens. Elle est souvent assez peu visible, mais elle transforme le quotidien à l'échelle locale. Est-ce qu'un jour, elle change, enfin, elle transformera complètement le monde économique, je ne pense pas. Elle sera forcément une des composantes de l'économie. Ça, c'est mon point de vue. Mais l'objectif, c'est qu'elle puisse prendre de plus en plus de place et surtout qu'elle puisse avoir les mêmes moyens que les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui souhaite créer une entreprise de l'ESS, il doit pouvoir avoir les mêmes conditions pour pouvoir se développer, avoir les mêmes moyens en termes de financement, avoir les mêmes moyens en termes d'accompagnement pour que on puisse avoir une ESS qui soit forte, qui puisse changer d'échelle et se développer comme n'importe quelle entreprise. Donc voilà, moi je crois vraiment à ça. Je crois pas que l'ESS remplacera l'économie classique, mais en tout cas, au niveau de la CRES, on souhaite que les entrepreneurs de l'ESS puissent avoir les mêmes chances que les autres.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, le mois de l'ESS, c'est du 3 novembre au 8 décembre. Découvrez tout le programme, les acteurs, les manifestations sur le www.lemois-ess-hdf.org, lemois-ess-hdf.org, un magazine proposé par Bruno Reguet de Radio PFM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.